qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Usted.
Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. A chupar.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito.
Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted.
Canal Sud, 92.2, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bonne 2017e page de cette ère tumultueuse qui verra, si j'y arrive, la fin de l'histoire du Grand Texas. Nous arrivons aujourd'hui au 7e chapitre qui nous amènera au cœur de ces affaires arabes qui ont marqué le début du 21e siècle. Le 11 septembre 2001, donc, deux Boeing se sont écrasés contre les tours jumelles du World Trade Center.
Quel gâchis!
Vous savez combien ça coûte, ces trucs-là? Sur le moment, on s'est demandé qui avait fait le coup. Mais rapidement, les soupçons se sont portés sur celui qui allait devenir le roi des Arabes, Oussama Ben Laden. Oussama était issu d'une famille tout ce qu'il y a de bien. Son père, Mohamed Ben Laden, était le Bouygues saoudien. Mais c'est toujours pareil avec ces gosses de riches arabes. À 20 ans, et puis qu'une grosse gueulante traîne le nom d'Allah dans la boue, disent que les 22 femmes de leur père sont des putes, et claquent la porte pour aller faire le djihad en Afghanistan contre les soviétiques. Et sur les vignettes, on voit Oussama faire la morale à toute sa famille, et ça fait du monde. Corrompre les directeurs de télé avec l'argent de papa, pour pouvoir faire des émissions religieuses, et retourner à la maison pour y jouer les pédagogues. C'est beau, la foi. Mais, prévenant, le père a passé en douce un coup de fil à la CIA, qui a répondu « Pas de souci, on maîtrise la situation. » Et le lendemain, Oussama a trouvé devant sa grotte plein de lance-missiles anti-hélicoptères dans du papier cadeau. Quelques semaines plus tard, les Soviétiques quittaient l'Afghanistan et les images assorties nous révèlent de quelle manière. Alors, on voit d'abord un groupe armé portant le drapeau du Front Wahhabite de Libération échanger des tendresses avec un autre groupe, copier-coller, sauf le drapeau, où je lis Front Sunnite de Libération. Au milieu de leurs ébats musclés et pétaradants, s'échappe une grosse grenade qui roule, jusqu'au ravin. Où passe justement un tank soviétique qui rampe à capot ouvert. Bien sûr, c'est dans le tank que va atterrir la grenade. Feu d'artifice gratuit et nouvelle explosion. De joie, sunno-wahhabite. Avant que le conflit ne reprenne, chacun prétendant que c'est sa grenade qui a fait péter le char. Ben Laden devint un héros. Il se lia d'amitié avec les nouveaux maîtres du pays, les talibans, dont il partageait les convictions féministes fondamentalistes. Il eut alors l'idée de créer une collection de prêt-à-porter pour émanciper les femmes. Il nomma cette ligne de vêtements Al-Qaïda, ce qui, comme chacun sait, signifie en arabe « ni pute ni soumise ». C'est bien ce que démontrent les dessins. On voit Oussama, assis sur un tapis, prendre le thé que lui servent des femmes en burqa. On voit aussi, dans les bulles psychanalytiques qui trahissent ses rêves, l'édite dame vaquer à ses occupations sous des burqas complètement transparentes où apparaît leur éblouissante nudité. Rêve contrarié. Oussama s'énerve. Il cherche du secours dans le Coran, qui se révèle insuffisant, et conduit Oussama à se prosterner sur son tapis en tremblant de fièvre. C'est bien dessiné. Et une des braves dames en burkinée, qui se tient à proximité, le contemple d'un air mélancolique. Et se met elle aussi à rêver. Et que fait-elle dans la bulle de son rêve? Elle vient bien sûr tâter l'Oussama à cet endroit que ma mère m'a défendu de nommer ici. La collection d'Oussama fit un flop retentissant à Paris et à New York. Son créateur, fou de rage, retourna alors la guerre sainte contre les intérêts occidentaux. Pneus crevés à l'ambassade américaine au Kenya, panne d'ascenseur à l'ambassade américaine en Tanzanie, vitres brisées au consulat américain au Yémen. La CIA mit alors sa tête à prix 5 millions de dollars, créant de nouvelles vocations de chasseurs de primes, vite déçus par les effets dissuasifs des gilets explosifs, nouvelle collection du prêt à péter d'Oussama, laquelle, cette fois-ci, fut un succès planétaire parmi les djihadistes. Et le 11 septembre 2001, Ben Laden organisa l'attentat contre les tours jumelles et fut sacré roi des Arabes. Pourtant, un courant de scepticisme prenait de plus en plus d'ampleur. On s'interrogeait. L'impact des avions était-il suffisant pour provoquer l'effondrement des tours? Les attentats n'avaient-ils pas bénéficié du concours des plus hautes instances de l'État? Le président Bush lui-même n'aurait-il pas... Nya 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 nya. Et les vignettes qui suivent mériteraient un agrandissement en 2 mètres sur 3. C'est nettement plus intéressant que les promos de Carrefour et c'est surtout plus drôle. La première montre un journaliste qui évoque à la télé un Ben Laden jouant de la télécommande pour guider les avions auquel il fait faire non pas des marches arrière, mais tout de même des volte-face. À la suivante, il revient au bon vieux système à fil électrique des résistants, qui déclenche, en enfonçant la poignée fatale, l'explosion des tours, juste au moment où des avions passent par là. Si vous ne voyez pas ce que je m'efforce de vous décrire, jetez donc un coup d'œil sur la page d'accueil de Canal Sud, c'est notre logo, le détonateur à distance, en forme de poste de TSF, à peine bidouillé. La troisième vignette n'est pas triste non plus, c'est un agent du Mossad avec une belle étoile à 6 branches sur le ventre qui joue de la télécommande, faisant avancer un Ben Laden porteur d'antenne sur la tête, avec une démarche quelque peu mécanique. Certes, à ce moment-là, il n'est pas en défilé de haute couture. Les anciens se souviendront peut-être de Lee Harvey Oswald, remis en scène sur la quatrième vignette dans le rôle de l'opérateur sur déclencheur électrique à distance vu précédemment. Je rappelle, pour la jeunesse, qu'on a trouvé un Lee Harvey Oswald bien commode dans le périmètre dramatique où fut assassiné Kennedy en novembre 1963. Un Jack Ruby, la Oxy, sans retard, pour éviter toute investigation dommageable. Mais si ça se trouve, c'était pas Oswald que Ruby dégomma, puisqu'il est là, dessiné en train de se venger, presque 40 ans plus tard. Allez savoir. Je cale un peu dans l'interprétation de la cinquième illustration. Vous y verrez mieux que moi, sans doute. La radio annonce qu'un avion se jetant sur les tours venait soit de la lune, porté par un solide rayon d'icel, soit d'une soucoupe volante, s'ouvrant à la manière des navires américains débarquant hommes, armes et bagages sur les plages de Normandie. Comme il vous plaira. Quant à la sixième vignette, c'est le bazar total. Ça commence par W serrant la cuillère à Osama, ça continue par un général de l'US Air Force en faisant autant, et puis on voit Osama, un peu seul, sauter en parachute de l'avion qu'il a lancé contre les tours pour le retrouver en bas de l'image faisant copain avec Saddam Hussein. Et un citoyen incrédule, ahuri et visiblement épuisé, s'enfuit à toutes jambes en se bouchant les oreilles. Après enquête approfondie, la CIA conclut. Les avions ont pénétré dans les tours au 83e étage. Quand ils ont rencontré le mur d'en face, ils ont rebondi selon un angle de 45 degrés qui les a projetés en sens inverse. Ils ont de nouveau heurté la première paroi, rebondi à nouveau à 45 degrés en sens inverse, et ainsi de suite, pour arriver au pied des tours, détruisant l'ensemble des bâtiments. Oui, mais ça pourrait aussi bien être une démolition contrôlée, commanditée par... Et le crayon caméra d'Autoté nous introduit dans les bureaux de la CIA, où nous voyons un témoin barbu exposer son point de vue, se regarder à la télé avec un enquêteur de la CIA, partager avec lui une hilarité profonde, et recevoir un chèque avec plein de zéros. Quand il quitte le bureau, l'agent de la CIA appelle le témoin suivant, parmi la longue file qui s'étire dans le couloir. Puis, nous étudions l'impact social des événements. Dans un immeuble de bureaux, un monsieur et une dame, qui ne semblent pas se connaître, partagent l'ascenseur. Survient un arabe, barbu qui plus est. La dame s'alarme et le monsieur vire l'arabe au palier suivant. Aussitôt la dame se rapproche du monsieur videur et il se retrouve au lit à la vignette suivante. La dernière nous montrant l'arabe recevant une pile de dollars des mains de son videur. Comprenne qui pourra, comme disait Pompidou.
Pali que quedo solo hacia Sate, que Sanda Iván estuve sin mí, que Sanda Iván estuve sin mí. Y Ana Macelu, luz que endaviano, que chegucian tu charavice, chives a lulu, y edan a nashi, nade nagasi, riaru araque, nade nagasi, riaru araque. Gina chendaya, charabacheza, riete nala, generi juilua, ninka ruikanda, mano a cabeza, por aguire luginine una, por aguire luginine una.
Daviano, que chego siando jarabise, chives a lulu, queda nanashi, nade nagasiri aruarake,
nade nagasiri aruarake, gina chendaya, jarabacheza. Riete na la generi juilua, ninka ruikanda, mano a cabeza, por aguire luginine una, por aguire
Demain du 11 septembre, les États-Unis lancèrent l'opération Liberté immuable sur l'Afghanistan pour aller débusquer Ben Laden et lui dire « T'as vu ce que tu nous as fait, espèce de pourriture, 3000 morts, et t'es fier de toi, enlève ce rictus de ta face ou tu vas te goinfrer par le fion, mon magnum 357, espèce de boum, clac, bon. Oh merde, le coup est parti tout seul, mon colonel. En plus, c'était pas Ben Laden. Ils se ressemblent tous, ces Arabes. » Pour preuve, les vignettes suivantes, où d'abord un village est passé au crible, roquettes, calaches, grenades et tout, sans qu'on puisse bien sûr y retrouver Ben Laden. Ce qui permet à Ototé d'économiser un dessin, puisqu'il peut nous recoller celui-là en fin de page pour un village jumeau où on va éliminer encore toute la population sous le même prétexte et avec le même résultat, histoire de faire du zèle pour compenser le temps perdu. Cette guerre d'Afghanistan allait nous coûter bonbon. Il n'y avait pas de raison que les autres pays ne mettent pas la main au portefeuille pour nous aider. À l'ONU, ils firent semblant de ne pas avoir entendu. On tapa un grand coup sur la tribune. On leur dit que s'ils n'étaient pas avec nous, ils étaient contre nous. Et on est sorti en claquant la porte. Les autres pays ont dit « Ouais, ouais, on arrive !» Et ils nous suivirent en traînant la savate. C'est comme ça que Bush transmit sa démocratie bombinique. On en a donc une demi-page très harmonieuse où de riants bosquets alternent avec d'éclatants bouquets au napalm ou au phosphore, on ne peut pas savoir, la BD n'est pas en couleur. Puis vint le tour de Saddam Hussein, le président de l'Irak. Il n'arrêtait pas de nous provoquer en croisant les bras et en braquant ses petits yeux perçants en direction de l'Amérique. En 2003, on fit courir le bruit qu'il cachait dans sa cave des ceintures d'armes de destruction massive. Et nous envahîmes son pays avec la bénédiction de l'ONU. Arrivé chez lui, on ne trouva que des ceintures de pétards mouillés. Nous fûmes très déçus. Mais Saddam Hussein fut tout de même pendu, en tant qu'arabe, et la vidéo tourna en boucle sur Internet. Un petit frisson nous parcourut l'échine au moment où les cervicales se brisaient. Même si ce n'était qu'un arabe, on est des gens civilisés, on n'allait tout de même pas s'empêcher d'éprouver de la compassion. Et on voit un couple éclater de joie devant la télé qui annonce la pendaison de Hussein et courir transmettre la bonne nouvelle à leur fiston qui travaille à l'ordi dans sa chambrette. Ils entrent en trombe en annonçant l'événement et leur gamin, qui s'épuisait sans résultat en révisant laborieusement son bac devant un porno adapté, retrouva soudain l'espoir sous l'effet d'une éruption quasi volcanique, si puissante qu'elle noya l'ordinateur, provoquant le troisième accident électrique de cette BD. Quand on vous dit que cette guerre coûtait cher, les meilleures choses ont une fin. Et il fallut se rendre à l'évidence. Les deux mandats de W avaient été déplorables pour l'image des États-Unis dans le monde. Il avait certes dopé l'économie, unifié la nation et fait la fortune des grands hommes, mais il l'avait fait à la texane, sans prendre en compte le ressenti des peuples qu'il avait piétinés. Or, le monde changeait. Avec Internet, tout se savait dans la minute. Les droits de l'homme ne demandaient qu'à être bafoués, mais encore, fallait-il le faire avec finesse, tact et poésie? Et pourquoi pas commencer les travaux pratiques en faisant un peu de tourisme? Les Antilles, ça vous dirait? Voici Guantanamo, comme si vous y étiez. Une inspectrice de l'ONU manque de tomber à la renverse en voyant défiler des prisonniers enchaînés comme au bon vieux temps de l'esclavage. Elle ordonne immédiatement d'alléger leurs souffrances en commençant par des mesures d'amélioration de l'environnement. Plus de ces pyjamas rayés qui en rappellent d'autres camps. Elle présente une collection de charmantes tenues à fleurs, à carreaux ou à pois, du meilleur effet psychologique. Et arrive une camionnette de peintre qui permettra à ces malheureux de faire du neuf avec ces vieux murs pisseux. Et pour montrer que tout a changé, voilà des soldates en pleine forme qui viennent faire rêver les prisonniers, en démontrant, à coups de bottes cloutées, qu'elles peuvent piétiner des hommes enchaînés tout comme leurs collègues masculins. Tandis que ceux-là, rendus disponibles, peuvent arroser le Coran à leur manière. Puis vint Barack Obama, l'homme providentiel, qui allait tout faire oublier. À la fois noir, indien, arabe et irlandais, né au Kansas. Ah bon ? Autant dire à deux pas du Texas, qui pouvait encore dire que les États-Unis étaient un pays puritain, figé dans ses traditions et replié sur lui-même. Barack Obama poursuivit la même politique étrangère que son prédécesseur. Perso, ce n'est pas mon avis, et c'est bien ce qu'on lui reproche, le coup de la ligne rouge. Mais bon, c'est Grégory qui cause, paraît-il. Je lui rends le micro. Barack Obama a donc reçu pour sa politique étrangère, mais pas que, le prix Nobel de la paix et l'Oscar du meilleur acteur pour l'ensemble de sa carrière. Et sur la première image de la vidéo qu'on imagine, on lit un titre qu'il fallait trouver. Sylvester Stallone is Obamambo. Et là, on voit Sylvester Stallone dans le rôle d'Obama, à peine plus balèze, arrosant à la calache un bataillon d'Arabes qu'il survole suspendu à un hélico. Ou encore, émergeant d'une mangrove, toujours avec sa calache, jouant à sept d'un coup, en écrabouillant toute une équipe d'Arabes à force de moulinets. Et ça finit en enlèvement des Sabines, à bord d'une Jeep dernier modèle. Sabine en burqa, bien sûr, et visiblement consentante vu le nombre de petits cœurs qui planent au-dessus de tout ça. En 2010, personne ne s'y attendait. Les Arabes sortirent en masse dans la rue et se mirent à crier que leurs dirigeants étaient des pourritures à la solde des États-Unis. Qu'est-ce qui les prenait soudain? Ça faisait des années que tout le monde était au courant et personne ne s'était jamais plaint. Ça commença en Tunisie, où le président Ben Ali fut mis à la porte à coups de pied aux fesses. Homme raffiné, spirituel, soutenu par les démocraties occidentales, il fut qualifié d'infâme dictateur, alors qu'auparavant, tout le monde l'appelait « lumière de notre vie qui sent bon ». Après leur révolution, les Tunisiens organisèrent des élections et portèrent au pouvoir un pingouin dont personne n'arrive à se rappeler le nom. Et les dessins rappellent de façon savoureuse les dernières aventures de Ben Ali. Un régal de voir un dictateur à genoux se faire mollarder de partout. Ça manque un peu d'Aliomari, mais bon, on ne peut pas tout avoir. La révolution gagna l'Égypte, où le président Hosni Moubarak fut hué, moqué, insulté et destitué. Lui qui était incapable d'arracher une aile à une mouche, alors que dans son pays, on pendait les homosexuels, on tranchait la langue des opposants politiques et on tirait à balles réelles sur les manifestants.
méritait-il un sort si cruel?
Et défile à la barre des témoins, mère, épouse, enfant et autres victimes de Moubarak, dont les accusations plongent l'accusé dans une profonde dépression, emplissant de larmes sa cabine de verre. Arrive son avocat, qui le décrit comme un quasi-saint homme, généreux, pieux, aimant les enfants. Et Moubarak de s'éclater de rire. Et puis les Arabes copièrent les uns sur les autres. C'était à qui demanderait la fin du régime en Libye, au Yémen, en Syrie, au Bahreïn, en Algérie, en Jordanie, au Maroc. Ce clonage nous faisait bien rire et nous donna une bonne idée. On allait se débarrasser de deux ou trois dictateurs qui commençaient à nous courir sérieusement. Muammar Kadhafi, par exemple, il nous courait depuis 42 ans. Mais à chaque fois qu'on menaçait d'envoyer l'aviation, il se montrait soudain bien commode. En 1986, il mit trop longtemps à se rendre intéressant et on bombarda son palais. Il sortit avec une serviette de bain autour du ventre en disant qu'il n'avait pas entendu nos menaces, qu'il était sous la douche. Et c'est la même fiesta pour l'exécution de Kadhafi que pour celle de Saddam Hussein. Mais là, les visiteurs du bachoteur prennent soin de frapper avant d'entrer dans les hauts lieux de révision philosophique. Le futur bachelier, d'ailleurs, ouvre la porte lui-même, bondissant en hurlant de joie. Et les trois fêtards vont célébrer ensemble l'événement. Je ne suis pas inspirée pour vous interpréter la dernière vignette de la page. Il y a beaucoup de désordre. Je ne m'y retrouve plus. Débrouillez-vous. Ce jour-là, en se brossant les dents et en se regardant dans la glace, aussi bien le président de la Syrie que celui de l'Algérie s'imaginèrent entre deux chameaux sur le point d'être écartelés vifs. Même le gentil roi du Maroc s'imagina entre deux chèvres, prêt à être un peu agrandi. Il n'y eut que le méchant président de l'Iran qui partit d'un rire sardonique. Il s'en foutait de tout ça. Il allait bientôt doter son pays de la bombe atomique. Et des images très classes montrent Ahmadinejad se faire une beauté et tressaillir soudain en découvrant un cheveu blanc dans sa crinière. Vite, il l'arrache pour en découvrir de nouveau. Vite, une bouteille de teinture. Et le voilà prêt à parader devant le monde entier. Et nous arrivons au chapitre 8. Alors, là, c'est de la prospective. Et je ne sais pas si j'ai raison de vous raconter ça. Parce que même écrit en 2012, ça a un petit air terriblement logique et actuel. Et c'est peut-être pas des façons de vous souhaiter une bonne année.
De amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. amores quiero levantarte un nido, oculto del mortal a la mirada, y ver lejos del mundo fementido la realidad de mi ilusión soñada. Si el huracán entre las hojas zumba, o el espacio oscurece la tormenta, al escuchar el trueno que retumba, te hablaré del amor que me alimenta. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido. Tormentos o placer, yo todo anhelo. Si al tuyo está mi corazón unido, que un mismo sol alumbre nuestro cielo, o que rompa un mismo rayo nuestro nido.
La première page de ce dernier chapitre s'ouvre sur un portrait de Shimon Peres et commence par une mise en boîte qui va comme un gant à son curieux successeur, tout comme les autres extravagances que lui prêtent Grégory et Otto. Voilà. Ahmadinejad étant donc sur les starting blocks, le président d'Israël fit un voyage diplomatique pour rencontrer son homologue américain. De son index, il tapa 53 fois sur le bureau, là où tous les présidents israéliens tapaient de leur index depuis la création de l'État d'Israël. Un petit trou de 3 cm avait fait son apparition. « Cette fois, c'est sûr, les Iraniens vont avoir la bombe atomique. » Moi je m'en fous, résolution de l'ONU ou pas, cet été, je raye Téhéran de la carte, on sera quand même plus tranquille. À chaque fois que le président iranien faisait son cinéma, côté israélien, c'était le même refrain. Le président américain fit servir le thé, les pom-pom girls arrivèrent, on rit, on se raconta les derniers potins, on oublia tous nos soucis. Et les vignettes ne sont pas tendres avec Pérez, qui investit les lieux au point de menacer de faire tuer le lama de la Maison Blanche sous prétexte qu'il l'aurait mordu. S'il y a un prochain flubbelub sur Netanyahou, je me demande jusqu'où vont aller nos deux historiens. Et on fait un bond en Israël, qui suit les aventures américaines du chef de son gouvernement et découvre sur CNN cette annonce. Dans moins de 3 minutes, Téhéran sera rayé de la carte. C'est ce que vient d'annoncer dans un communiqué le président israélien. Et Téhéran et ses 15 millions d'habitants furent rayés de la carte. Le président d'Iran et son gouvernement d'islamistes radicaux s'étaient réfugiés dans un bunker anti-atomique secret. La guerre ne faisait que commencer. L'interprète, en vacances, avait été rappelé d'urgence à la Knesset pour une réunion de crise. On lui demanda de traduire une déclaration du président d'Iran. Il cria « Allahu Akbar !» appuya sur un petit bouton dissimulé dans sa ceinture, et en un instant, le Parlement, le gouvernement et le président partirent en fumée. Pouvions-nous, nous, Américains, laisser impuni un tel crime? Les Israéliens étaient nos amis de toujours, comme nous, ils avaient durement conquis leur terre. Nous convainquîmes l'ONU, qui traînait la savate, déclenchâmes l'opération Democratic Typhon et envoyâmes nos troupes aux côtés des Israéliens. C'est à peu près ce qu'a pu imaginer Barack Obama à propos de l'histoire du fil rouge. Je sais, c'était pas Ahmadinejad, mais Poutine. Mais... Et la page illustrée montre Obama pratiquer une dialectique qui fait plutôt penser aux ruses de Lincoln. Quand l'Obama d'autorité demande au Congrès l'aval pour entrer en guerre et essuie un refus, surgit en courant du fond de l'hémicycle un arabe hurlant « Allahu Akbar » en ouvrant son manteau d'exhibitionniste sur une superbe collection d'explosifs. Et Obama, héroïque, superbe et généreux, lui colle un nion historique et le fait sortir par les huissiers. Sortir, j'ai dit, et pas embarquer. Car à la dernière vignette, on retrouve les deux, Obama et l'arabe, copains comme cochons, qui se congratulent pendant qu'Obama remet une jolie collection de dollars aux soi-disant terroristes. La Chine, l'Inde et la Russie firent les gros yeux. Mais Democratic Typhon concernait tous ceux qui s'opposaient à notre destinée. Depuis les bases que nous avions patiemment installées partout dans le monde, de petits commandos agirent secrètement et liquidèrent les gouvernements revêches. Dans la précipitation, la Chine, l'Inde et la Russie balancèrent des missiles nucléaires qui tombèrent un peu n'importe où. Quelques-uns chez nous, d'autres au pôle sud, en Belgique, en Afrique. La Terre devint radioactive pour des millions d'années. Mais nous eûmes de la chance dans notre malheur, l'explosion des bombes atomiques avait modifié l'axe de rotation du globe et stoppé net le réchauffement climatique. Et on voit un village africain avec des maisons rondes en terre crue, recouvertes de palmes, comme dans le film Mola Adé, que vous avez tous vu, bien sûr, d'Ousmane Sembene. Mais ces maisons sont verrouillées par des portes blindées, isolantes, rondes, qui ressemblent à des couvercles de cocottes minutes. Et devant les maisons, des enfants font des batailles de boules de neige, et des bons hommes aussi, entre les troncs des cocotiers, secs et noircis. Sont un Shadok, les enfants, quand même, avec compteur Gégère en sautoir. La guerre fut longue, fait dire Grégory aux Américains, mais au bout du compte, nous eûmes le dernier mot. Le 4 juillet 2035 fut proclamé Annexion Day. Inspiré par l'esprit du Texas, par Davy Crockett, Sam Houston et William Travis, notre combat pour la démocratie avait payé. Nous avions unifié les peuples de la Terre en une seule grande nation, qui porterait désormais le nom de République du Texas. Et dans une salle de jeu, d'autres enfants, en shadok aussi, mais avec des chapeaux texans, s'exercent aux manettes de ces machines qui existent déjà, s'exercent donc à frapper au fouet virtuel les esclaves recréés à l'écran, ou à abattre des Indiens tout aussi virtuels avec des pistolets qu'on croirait véritables. un autre gosse, des deux manettes à la fois, raccourcit ou remonte, pour s'amuser, la corde d'un strange fruit, enfin remis au goût du jour. Il nous avait fallu moins de 200 ans pour pacifier toute la planète. Il n'y avait plus ni noir, ni indien, ni arabe. Il n'y avait plus que des Texans. Il ne nous restait plus qu'à doper l'économie et faire la fortune des grands hommes en construisant des vaisseaux spatiaux pour explorer l'univers à la recherche de nouveaux territoires. Et Autoté nous montre le progrès en devenir. Un conférencier propose un projet à partir de panneaux photovoltaïques qui alimentent des ventilateurs. Pourquoi n'alimenterait-il pas les fusées interplanétaires? Il se fait virer. Un autre appareil qui fait rebondir le débat en remplaçant le soleil par le pétrole et le nucléaire. Et chacun d'applaudir. La dernière page montre le débarquement des Texans sur une autre planète habitée. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme a rencontré des extraterrestres. Ils nous ressemblent en tout point, doués d'intelligence et de sentiments. Ils ont bâti une grande civilisation. Mais ils ont un sacré problème sur les bras. Ils ont des gueules de cafards. Alors, si je ne voyais pas sur l'image que le Texan descend de son vaisseau spatial, lequel a un petit air de concorde vertical, fendu d'un sourire de requin, si je ne pouvais pas suivre ses pas dans la riante prairie de l'alunimartérissage, je ne saurais pas qui a l'air le plus cafard, du Texan ou de l'indigène. Le pilote, disons, a une vraie mine de bousier dans son costume de spationaute. Et l'indigène qui accourt les bras ouverts et la mine réjouie, portant en outre des pampers familiers, me semble rien moins qu'humain. Mais bon, il paraît que j'ai toujours tendance à tout mélanger, et je le revendique. Et voilà que le Texan, qui est sans nul doute un auditeur fidèle de Contre-Histoire, semble se souvenir de la première émission sur le Texas, en voyant l'indigène lui tendre les deux mains fermées sur des trésors de bienvenue, et disant en son langage « Quelle main tu veux ?» Il comprend, le Texan, que tout recommence.
Andan diciendo que soy perdido,
Alors pas de panique, il n'y a rien de changé à Téhéran, même si le monde bouge. Et pour démarrer cette année, je vais faire un effort. Pour ceux qui étaient en vacances, pendant ces congés, je vais vous compacter les 4 émissions sur le Texas, en simplement 2, en changeant un peu la musique, qui a parfois été répétitive, je le confesse. Voilà, je vais vous faire 2 paquets cadeaux que vous pourrez écouter ou enregistrer sur le site de canalsud.net. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on reviendra en France, parce qu'il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Portez-vous bien. À bientôt. À samedi prochain. Et bonne année à tous.